L'offre gouvernementale au personnel hospitalier relié à la FIC a été refusée à 61% en fin de semaine. On va jaser de cette situation-là, du refus. De la suite des choses, on s'en va où? Avec Marc Ranger, qui est conseiller stratégique chez Ryan Affaires publiques, mais comme j'aime l'appeler aussi un spécialiste en négociation syndicale, il est au bout du fil. Marc, bon matin.
Oui, salut, salut à toute l'équipe.
Merci d'être là, toujours un plaisir de t'avoir avec nous à l'émission. Marc, es-tu surpris d'entrée de jeu, là, commençons là, es-tu surpris qu'on a refusé l'offre à 61%?
Oui, bien, bien franchement, je suis surpris. D'ailleurs, la veille, j'allais te texter puis faire mes projections, puis je suis content de ne pas l'avoir fait.
Parce que ben, le pire, c'est avec nos différentes discussions, j'avais comme pris l'idée qu'il allait accepter. Mais ensuite, quand on a parlé en fin de semaine dernière, il y a des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent, qui travaillent dans le domaine de la santé, puis eux penchaient plus vers le refus de ce qu'eux voyaient sur le terrain.
Oui, mais écoute, ce qui est très particulier, c'est pour ça que c'est aussi difficile à prévoir. Tu sais, contrairement à la FAE en éducation, où tous les votes ont été serrés, hein, c'était comme une série qu'on suivait jusqu'à la dernière assemblée. Dans ce cas-ci, vote référendaire, quand tu regardes, j'ai pas tous les résultats, là, mais tu regardes, là, il y a des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean à 75 % l'Abitibi à 74 % en faveur, là. Puis tu as d'autres régions, la Mauricie, c'est centre du Québec, c'est le contraire à 75 %. C'est des résultats très, très différents. En Estrie, qui est très gros, un de leurs plus gros syndicats, c'est à 53 % que ça a passé. Mais moi, je soupçonne, j'ai pas le résultat de la capitale nationale, mais je soupçonne que ça n'a pas passé. Montréal, ça n'a pas passé. Puis pourquoi ça n'a pas passé? Un des éléments qui ressort le plus fort de tout ce qu'on entend, c'est les fameux mouvements de main-d'œuvre. Puis dans le fond, c'est pas bien, bien compliqué à expliquer, c'est que l'entente, même si la présidente Julie Bouchard avait dit à un moment donné, il n'y en aura pas de flexibilité, mes membres n'en veulent pas, ils ont fini à la table de négociation par faire un compromis où ils ont permis au gouvernement, avec la création de Santé Québec, de pouvoir créer des nouveaux centres d'activité ou d'en fusionner des centres d'activité. Puis ça, pour parler français, ça veut dire que pour avoir un centre d'activité qui couvre plusieurs établissements, d'où l'idée de déplacement. Et là, ça ne peut pas l'affaire. Tu sais, en Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des régions où il y a des primes particulières. L'Outaouais, c'est le cas, il y a des primes particulières, tout ça. Mais prenez la région de la Capitale-Nationale, la région de Montréal. Quand tu es habitué de travailler dans un établissement donné, toute ta carrière, puis qu'à un moment donné, on te dit, non, là, on a fusionné des centres d'activité, puis on va te demander d'aller travailler. Oui, tu vas être formé à tel endroit. Et là, on voit que ça, là, ça passe pas du tout. Je pense que les membres ont considéré que ça donnait beaucoup trop de latitude au gouvernement. Et c'est une des raisons. Je pense qu'il y a, il y a d'autres éléments, parce que des primes par palier qui ne s'appliquent pas de la même façon à tout le monde, ça crée du mécontentement. Mais à mon avis, pas au même niveau que ces fameux mouvements de main-d'œuvre-là. Les gens se disent, c'est pas vrai qu'on a travaillé toute notre vie, puis qu'à un moment donné, par suite à une entente, on va être déplacé.
Est-ce que pour un syndiqué, Marc, ça peut être frustrant de voir que cette fameuse mobilité-là du personnel était comme camouflée dans une nouvelle stratégie de gestion?
Je pense que quand ils ont eu les explications sur l'entente de principe, là, ils ont bien vu que c'était pas suffisamment, de ma lecture, pas suffisamment balisé, puis que là, ça laissait trop de place à l'interprétation. Avant, ces mouvements-là étaient permis, puis c'était négocié au niveau local pour chacun des CIUS, des CIS. Et là, maintenant, l'entente, ce qui a changé, c'est qu'elle vient enlever cette négociation-là au local pour la durée de la création de Santé Québec, tout ça, puis venir permettre au gouvernement, donc, de créer ces fameux centres d'activité-là. Puis c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de confiance de la part des infirmiers, infirmières, et de l'autre, ça, que dans le fond, ça va être protégé, puis qu'il n'y aura pas trop de mouvements. Je pense qu'il y a des craintes qu'il y ait des mouvements importants. Et puis là, c'est pour ça que ça a été rejeté. Mais là, maintenant, comme un peu, on avait parlé dans d'autres groupes, ils ne retourneront pas à table à dessin à recommencer à zéro. Là. C'est vraiment la présidente de la FIC a dit, je vais faire le tour pour aller voir ce qui a vraiment irrité. On le sait pas mal déjà, puis elle le sait elle aussi. Puis là, ça va être de s'attaquer à ça. Maintenant, ce qui va être intéressant de suivre, c'est que le gouvernement, lui, déjà, on voit le ministre Dubé puis Sonia Lebel, puis on dit, nous autres, ça nous prend cette flexibilité-là. Donc, comme s'il ne voulait pas trop lâcher de l'os. Mais c'est pour ça que je pense, vraiment, tu sais, je vous en avais parlé, puis je t'en avais parlé, le conciliateur qui est là depuis le mois de décembre, puis qui les a aidés, on a vu que ça a été beaucoup moins dans les médias, cette négociation-là, moins de déclarations fracassantes, tout ça. Lui, il a participé à toutes les discussions. Lui, dont on a déjà dit qu'il a déjà fait des recommandations, c'est lui qui avait réglé la grève des profs l'année passée à l'Université Laval, la grève des chargés de cours cette année. Il est capable de faire une recommandation ciblée cette fois-là. Il ne l'a pas fait à date, mais là, il pourrait, soit les partis lui permettent, donc dans les semaines à venir, de regarder sur des points précis qui ont à choper, de voir à trouver, à faire des recommandations. Les partis peuvent lui dire « Go, vas-y, fais-nous des recommandations ». Ou lui-même, ce qui est rare, mais il l'a déjà fait, lui-même peut dire, bon, après, évidemment, il ne fera pas tout de suite, il ne fera pas cette semaine, il ne fera pas la semaine prochaine, mais après la reprise des discussions, lui peut dire, écoutez, moi, là, je pense que là, si on veut dénouer, je vais vous faire une recommandation par rapport, justement, à toute la notion de la création de centres d'activité, tout ça. Puis le gouvernement, s'il veut une entente, mon opinion, c'est qu'il devra accepter de mettre de l'eau dans son vin par rapport à cet aspect-là, parce que ça passe pas. Et puis il y a moyen, je pense, de trouver un compromis sur ça pour baliser davantage les mouvements de personnel.
Mais justement, par rapport à cette souplesse-là, qui, le gouvernement le dit, ça va demeurer un objectif d'aller forcer les membres de la FIC à offrir une souplesse. Comment on voit ça du côté du syndicat puis de ses membres que directement après le rejet de l'entente, en partie à cause de cette demande de souplesse-là, que le gouvernement retape sur le clou en disant « Notre objectif va rester, entre autres, là, d'aller la chercher, cette souplesse-là. » Ça peut pas juste mettre un peu d'huile sur le feu?
Oui, un peu, mais en même temps, le gouvernement se dit « La présidente Julie Bouchard, qui au départ disait qu'elle n'en voulait pas de flexibilité, elle-même a parlé d'une bonne entente et même suite à sa conférence de presse et à sa conférence de presse, elle a dit que c'était quand même une bonne entente, sauf que là, ses membres avaient parlé. Fait que c'est pour ça que le gouvernement se sent confiant. Mais en même temps, la pression va être très, très forte sur le gouvernement. Pourquoi? Parce que ils doivent terminer la mise en place de Santé Québec et ils peuvent pas laisser traîner cette négociation-là trop longtemps. Donc, il va falloir être créatif puis trouver une façon de donner un peu de souplesse, tu sais, j'avais fait le parallèle. Air Transat, là, il y a eu deux rejets d'entente de principe. C'est juridiction fédérale, c'est pas provincial. Mais la troisième fois, c'est une équipe de médiateurs qui a fait une recommandation au parti, puis ça a passé aux deux tiers. Fait que dans ce cas-ci, c'est pour ça que je me dis, les gouvernements n'aiment pas ça, des recommandations de conciliateurs, hein, parce qu'ils sont orgueilleux, hein. Ils aiment pas, ils veulent que ce soit eux à la table de négociation qui a trouvé la solution. Mais dans ce cas-ci, je sais, c'est peu bon comité de négociation aguerri. Moi, on me dit que c'est des gens qui sont aguerris et le climat est excellent à la table de négociation. C'est pour ça qu'ils ont réussi à aller vers une entente qui a été qualifiée comme étant bonne. Mais d'autant plus, je pense, ce comité-là doit, au-delà des déclarations de Sonia Lebel ou de Christian Dubé, ces deux comités-là doivent se mettre au travail pour essayer de trouver cette solution-là, aider du conciliateur. Puis là, je pense qu'ils doivent. Moi, si j'étais actuellement du côté syndical, je dirais, M. Fortin, conciliateur, vous avez les coups des franches pour nous trouver des voies de passage. Vous savez ce qui accroche? Parce que si on revient avec une entente de principe aussi permissive sur des mouvements de main-d'œuvre, ça ne passera pas plus. Il va y avoir un deuxième rejet. Il faut être créatif, il faut trouver une façon de mieux baliser cet élément-là, puis de voir, là, je pense qu'il y a peut-être 3-4 éléments qui retroussent pour lesquels, là, c'est en plein dans le terrain de jeu. Je parle longtemps, là, je m'excuse, mais c'est en plein dans le terrain de jeu du conciliateur. Là, ouais. Et là, il va avoir du fun, lui. Là, je le connais pour essayer vraiment de trouver ce qui peut faire en sorte d'aller vers une entente de principe qui serait adoptée cette fois-là.
Hey, d'ailleurs, Marc-André, est-ce que c'est le temps de peut-être changer dans le processus là, où on en est maintenant avec le refus de l'offre gouvernementale? Est-ce que ça serait le temps de changer le comité de négociation du côté de la FIC ou pas pantoute?
Non, pas du tout. Okay. D'autant plus que, comme je disais, là, ça va quand même très, très bien. Et fait, donc, c'est pas là. Le problème n'est pas là. Peut-être, tu sais, Julie Bouchard, la présidente, puis là, c'est une théorie qui vaut peut-être pas cher, là, mais elle vient de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sur le comité de négociation, on a souvent des gens qui viennent d'un peu partout. Donc, c'est pas surprenant qu'il y ait eu des sons de cloche positifs quand on voit dans certaines régions que ça passe très fort. Puis de l'autre côté, fait que l'évaluation, à un moment donné, du comité de négociation, syndicale, c'est-à-dire on pense que ça va passer, on a des sons de cloche que, bon, c'est correct, on pense que bien baliser, ça va être raisonnable, mais les membres, ces autres qui ont le dernier mot, ils n'ont pas cru. Pas qu'ils ne croient pas leur comité de négociation, mais je pense que les membres n'ont pas confiance avec la création de Santé Québec sur des mouvements excessifs qui pourraient en résulter. Mais le comité de négo, pour moi, là, il n'y a pas à changer personne.
OK.
Parfait. Qu'est-ce qu'on doit comprendre du côté du gouvernement avec les négociations syndicales? Puis là, je pense autant à la FIC que ce qu'on a vu avec la FAE, avec les enseignants, parce que on donne, puis c'est toi-même qui nous l'as dit, Marc, on donne des augmentations salariales jamais vues dans l'histoire du Québec. Et malgré ça, rejet à la FIC, puis entente acceptée très faiblement à la FAE.
Oui. C'est sûr, c'est un peu particulier parce que, mais on le voit, hein? Dans ce cas-ci, c'est pas l'argent qui était le nerf de la guerre, ouais. Mais en même temps, je suis certain que. Puis, du côté de la PIC, de toute façon, les paramètres salariaux avaient été fixés par le Front commun. Donc, ils savaient ce qu'il allait avoir. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier parce que il n'y a jamais eu un règlement à cette hauteur-là, à tous les niveaux. Hein. Les primes sont importantes aussi. On a augmenté des vacances. On a. Fait que c'est les assurances collectives aussi qui ont été bonifiées. C'est assez spectaculaire comme correction. Il fallait le faire parce qu'il y avait des retards. Mais de l'autre côté, ben on le voit à la fin de la journée, ce qui est important pour les travailleurs en santé, les infirmières, on le voit, c'est leur environnement de travail. Ils l'ont choisi. Puis si demain matin tu leur permets ou un employeur ou un gestionnaire va dire ben regarde-moi là dorénavant, voici le préavis, puis là tu t'en vas travailler à tel endroit pour tant de temps. Ensuite, ça pourrait être à tel autre endroit pour tant de temps. Ça a moins d'impact dans certaines régions, mais des grandes régions comme la capitale nationale puis Montréal, c'est un impact majeur et c'est là où les membres ont décroché.
Marc Rangier, avant de te laisser aller, j'ai une question par rapport aux négociations avec la SQ. Puis on pourra, regarde, peut-être la semaine prochaine ou plus tard cette semaine, on pourra y aller plus en détail sur ces négos-là et ce dossier-là. Mais la question que j'ai pour toi en terminant, comment on fait dans cette situation-là pour négocier quand on ne peut pas faire de grève parce qu'on est un service essentiel? On ne peut pas dire, OK, il n'y aura pas de police sur ces routes pendant une semaine. Ça ne se fera pas. Fait qu'on met des casquettes, on met des pantalons différents, mais on n'a jamais le gros bout du bâton, je pense, où on ne peut pas l'avoir des négos.
C'est frustrant, ça c'est certain, parce que le droit à la grève, c'est un levier qu'ils n'ont pas. En même temps, on le voit, il y a des corps de police. Le problème de la Sûreté du Québec, c'est que je pense que dans la perception publique, des conditions de travail qui étaient avantageuses, etc. Mais il y a plusieurs corps de police municipaux qui ont des salaires beaucoup plus et des conditions de travail beaucoup plus intéressantes que les policiers de la SQ. C'est pour ça qu'au départ, le 21% semblait spectaculaire. Mais quand on le met en perspective puis quand on regarde le retard, c'est sur 32 ou 33 corps de police au Québec. Je pense que la SQ, une étude qui avait été faite par la Fraternité des policiers de Montréal, c'était autour de... Il était dans les derniers de classe. Là. C'est pas normal pour un corps de police provincial. Puis il y a peut-être des préjugés par rapport à tout ça. Mais je pense que c'est de bien jouer dans leur cas. C'est peut-être de sortir ces statistiques-là. Montrer que tu es le corps de police provincial, puis tu arrives 26e, 27e, 28e dans l'évaluation des conditions de travail. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, que le policier, j'ai rien contre ça, mais un policier à Terrebonne gagne plus, pas mal de plus avantageux qu'un policier de la Sûreté du Québec. Mm-hmm. Montréal, il y a eu des corrections importantes dans leur dernière convention collective. C'est pour ça que la SQ avait aussi, les policiers de la SQ ont des grosses attentes pour dire, nous, là, si on n'a pas un rattrapage, avec tous les règlements qui se font dans les corps de police, on va reculer.
Oui. On jasera plus en détail, OK, Marc, de ce dossier-là puis de ces négos-là dans la prochaine semaine. Marc Rangier, il est conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques, un spécialiste en négociation syndicale, un ami du show. Hey, Marc, merci, c'est toujours un plaisir.
Plaisir, salut les gars.
Salut, Marc.
Au revoir.
Bye.
C'est ça, hey, quand même surpris d'entendre que Marc était surpris lui-même du refus de cette entente-là. De cette entente-là. Mais nous, en jasant avec des auditeurs, des auditrices de Rage Against le matin, la semaine dernière, on voyait que ça penchait vers ça.
Bien, on l'avait bien senti, justement, dans la capitale nationale, que l'enjeu de mobilité était quelque chose qui freinait les gens malgré les grosses hausses salariales. Puis, souviens-toi, quand j'ai mis la main sur l'entente également, tout ce que Marc a mentionné, l'assurance collective, les primes, plus de vacances, donc tout ça y était. Mais c'est vraiment l'enjeu de mobilité qui vient faire en sorte que cette entente-là est refusée dans la capitale nationale, puis finalement refusée là, à l'ensemble du Québec, malgré qu'il y ait des régions qui aient voté pour. Ça sera pas évident de trouver un compromis.
Non.
T'es bien beau parler du conciliateur Fortin qui est excellent, qui a toujours réussi à trouver des pistes de solutions, parce que j'ai l'impression qu'on est dans le blanc et noir. T'sais. Ouais. Autant du côté du gouvernement, on en veut, autant du côté du personnel professionnel, parce que là, ça inclut pas juste les infirmières, on n'en veut pas.
Ouais.
Fait que, je sais pas, il est où la zone de compromis, là? J'ai de la misère à la trouver, moi, personnellement. Oui, j'ai de la misère à la trouver en tant qu'observateur. J'ai bien hâte de voir comment on va reprendre ces négociations-là.
Encore une fois, merci à Marc Rangier. Évidemment, on va suivre tout ça. Il est 8h02, courte pause publicitaire. Vous êtes à Rage Against le matin. Entre autres, dans la prochaine heure, on va jaser des nouvelles tâches, nouveaux rôles pour les super infirmières, ou si vous préférez, les infirmières praticiennes spécialisées du Québec. On va en jaser avec Maud Raymond, qui est la nouvelle présidente de l'association. Et qui sait, peut-être même une petite toune de Blink-182.